Bonjour à tous. La fresque du climat est un atelier scientifique, collaboratif et créatif, conçu pour sensibiliser de manière ludique au changement climatique. Dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Rionbach, le créateur de la fresque. Bonne écoute. Bonjour Cédric Rionbach. Tu donnes des cours dans l'enseignement supérieur sur les enjeux climatiques et leurs impacts sur l'économie. Et tu es également le créateur de la fresque du climat. Peux-tu nous présenter en quelques mots ce qu'est la fresque du climat ?
Oui, alors la fresque, c'est un outil pédagogique que j'ai élaboré justement pendant que je donnais des cours sur le climat. Ça fait à peu près 10 ans que j'en donne et il y a 4 ans et demi, j'ai essayé un format pédagogique qui consistait à remettre dans l'ordre des causes et des effets des graphiques du rapport du GIEC. Le GIEC, c'est les scientifiques du monde entier qui font une évaluation de la littérature scientifique autour du climat. Et donc, ils émettent régulièrement un gros rapport qui est la référence pour comprendre le changement climatique. C'est donc là-dessus que je me suis basé pour élaborer mes cours. Et donc, j'ai aussi élaboré la fresque du climat d'après ce rapport du GIEC. Et quand j'ai donné ces graphiques à remettre dans l'ordre à mes étudiants, je les ai regardés travailler, je les ai regardés, parce qu'ils ont fait ça en équipe, je les ai regardés discuter en équipe, et j'ai compris que ce qui se passait dans leur tête à ce moment-là, c'était vraiment ça qu'il fallait faire pour comprendre le climat. Travailler à plusieurs, hésiter, tâtonner, corriger. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai utilisé cet outil systématiquement à chaque fois que je donnais des cours, parce que j'avais compris que c'était un très bon rendement pédagogique. Et donc voilà, ça c'est ensuite je l'ai amélioré continuellement. Au début il y avait une quinzaine de graphiques, aujourd'hui il y a 42 cartes recto verso avec des belles photos, etc. Et donc j'ai pris le temps au cours des ces quatre années, j'ai pris le temps d'améliorer progressivement l'outil.
Alors la phrase de présentation que j'ai trouvée sur la fresque du climat, c'est la suivante, c'est « La fresque du climat est un atelier scientifique, collaboratif et créatif conçu pour sensibiliser de façon ludique au changement climatique. Qu'est-ce que ces différentes composantes de l'atelier, donc scientifique, collaboratif, créatif et ludique, apportent à l'expérience vécue par les participants ?
Alors, c'est en effet quelque chose de très important, chacune de ces composantes, parce que c'est ça qui fait que ça fonctionne, alors déjà sur le plan pédagogique, mais également sur le plan des émotions, parce que le changement climatique, c'est quand même des sacrées mauvaises nouvelles. Et on a constaté que d'apporter ça sous la forme d'un jeu, et surtout sous une forme où les participants sont acteurs, puisque c'est eux qui constituent la fresque au cours du jeu, ça change complètement leur rapport à ce qu'ils vont, sont en train d'appréhender comme matière. Ça met l'animateur dans une position un petit peu de tiers. C'est pas un dialogue entre l'animateur et les participants. C'est les participants qui travaillent avec un outil pédagogique. Donc ils ont ces cartes qu'il faut remettre dans l'ordre et ils vont constituer une fresque avec les cartes. Et l'animateur est là pour les assister et les aider dans leur tâche. Et à la fin, la discussion qui a lieu, c'est une discussion où on débat plus tellement de l'aspect scientifique, puisque ça a été amené avec rigueur sur le plan scientifique, et puis c'est surtout les participants se le sont bien appropriés à travers le jeu. Et on discute, dans la dernière partie du jeu, on discute de ce qu'il faudrait faire. Et la discussion, elle est également très intéressante parce qu'elle n'est pas forcément un dialogue entre les participants et l'animateur, elle est plutôt une discussion entre les participants qui ont bien compris le problème et qui se disent maintenant qu'est-ce qu'on doit faire et qui vont exprimer chacun à leur tour leur avis. Alors, je vais peut-être préciser les différents aspects que tu as cités. Alors, le côté scientifique, oui, parce qu'en effet, c'est basé sur le rapport du GIEC, donc il n'y a que des données que l'on peut sourcer, que l'on peut retrouver dans le rapport. Ensuite, c'est quelque chose de collaboratif et la collaboration est très importante dans le fonctionnement du jeu. C'est ça qui fait c'est très stimulant pour l'esprit et du coup, les informations rentrent plus facilement dans notre cerveau quand on est en train d'agir et de faire un truc à plusieurs. Il y a un côté artistique qui est aussi très important, parce qu'une fois qu'on a réalisé sur le plan technique la fresque, c'est-à-dire qu'on a mis toutes les cartes dans l'ordre et on les a reliées par des flèches, à ce moment-là, on demande aux gens de faire quelque chose de joli sur cette fresque. Il y a 2 mètres carrés de papier avec les cartes dessus. On scotche les cartes et on leur dit bah, maintenant, faites quelque chose de joli. Alors, les flèches, il faut les repasser en couleur. Et puis, vous allez choisir un titre. Vous allez écrire un titre en gros. Et puis, vous avez le droit de faire des dessins. Et puis, de mettre tout ce qui vous passe par l'esprit. Et cette phase créative, elle est arrivée un peu progressivement. À chaque fois qu'on faisait la fresque, les gens avaient tendance à dessiner parce qu'ils étaient devant un bout de papier blanc et ça s'est fait naturellement. Et au fur et à mesure de l'usage, on s'est rendu compte que ça avait une dimension très importante pour l'appropriation et pour exprimer un peu nos émotions parce que les nouvelles sont mauvaises à propos du climat. Et quand on apprend ça, ça fait un petit peu un choc. Et le dessin peut être un mode d'expression pour exprimer ce qu'on a compris à travers le jeu.
Alors, tu m'as confié avoir essayé de faire une version jeu de société de la fresque du climat. Mmh. Pourquoi est-ce que tu as toujours voulu utiliser ce support qu'est le jeu, là, dans ce cas, pour sensibiliser au changement climatique ?
Alors, je suis conscient que le jeu, c'est un super outil pédagogique. C'était mon deuxième essai parce que dans le passé j'ai créé un autre jeu qui s'appelle Carpe Vinum et qui est un jeu sur la dégustation du vin, voilà, avec des bouteilles dedans, des questions et des réponses sur le vin auxquelles on doit répondre en équipe avec les 2 verres devant soi pour comparer les vins. Et je connaissais, j'avais déjà expérimenté du coup la puissance du jeu dans l'apprentissage. Et donc sur le climat, quand j'ai testé cet atelier, je me suis dit qu'il fallait vraiment capitaliser dessus. Je m'en suis servi systématiquement, donc c'est plus un atelier qu'un jeu pour l'instant. Et ensuite, je me suis dit, comme pour la dégustation du vin, il faudrait faire en sorte que on puisse se passer de l'animateur. Alors j'ai tenté de faire quelque chose qui marche tout seul à la maison, et puis j'ai laissé tomber parce que je me suis rendu compte que ça allait pas fonctionner, qu'on allait continuer d'avoir besoin d'un animateur, même si l'animateur n'a pas besoin d'être très expert pour animer. Il faut quand même quelqu'un pour faire un suivi de tout ça. Notamment parce que quand on comprend ce qui se passe sur le climat, on vit quelque chose de pas agréable et on se dit à ce moment-là qu'il va falloir travailler sur les solutions. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui nous guide dans cette étape, de se dire maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter notre impact sur le climat. Donc le format jeu de société que j'avais en tête, c'était le même principe, c'était les mêmes cartes, une quarantaine de cartes qu'on doit remettre dans l'ordre des causes et des effets, mais pour que ce soit plus facile de le faire et qu'il n'y ait pas besoin d'un animateur, il y avait donc les cartes étaient beaucoup plus petites, il y avait un plateau de dessiner, et sur le plateau, on avait mis l'emplacement de chacune des cartes, et on avait dessiné toutes les relations entre les cartes. Et du coup, il n'y avait plus qu'à les placer, chaque équipe tirait une carte l'une après l'autre, et on devait les placer sur le jeu, en lisant le verso de la carte, et en estimant où est-ce qu'elle allait se placer sur le jeu. Donc, c'était très rapide, ça mettait à peu près 1 heure, ça avait aussi comme conséquence qu'on apprenait moins de choses puisque ça dure moins longtemps, on se pose moins de questions, c'est plus facile à réaliser, donc on apprend moins de choses. Ça, c'est pas forcément un problème en soi, c'était dans la mesure où c'est plus court, ça peut être intéressant, mais il y avait une grosse frustration à la fin qui était oui, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait au niveau des solutions, et j'ai pas réussi à insérer les solutions dans le jeu sous la forme de cartes qui viendraient s'ajouter, et ça c'est un point important. Les solutions sont quelque chose de tout à fait différent de ce qu'il y a aujourd'hui dans les cartes de la fresque. Les cartes, elles représentent des éléments du changement climatique. C'est que des faits très objectivables qu'on peut sourcer, qui sont basés sur des éléments scientifiques. Alors que les solutions sont d'une nature très différente. Les solutions, c'est des décisions personnelles, politiques, subjectives. Et c'était compliqué de mettre des cartes qui sont de la même nature que les autres, de mettre côte à côte des cartes qui seraient d'une nature tout à fait différente. Et j'avais peur que ça fasse un mélange des genres un peu déconcertant. Et puis surtout, je ne me sentais pas légitime à proposer moi-même des solutions, parce qu'il y en a plein. Travailler sur les solutions, c'est le travail d'une vie. Et donc, je trouvais ça bizarre de moi-même dire aux gens quels étaient. Mais même si on les laissait choisir X solutions parmi Y, je trouvais ça bizarre que moi, je sois la personne qui dise bah, vous avez le choix entre telle et telle solution, et puis je vous laisse choisir celle qui vous plaît plus. Bon, voilà pourquoi ça s'est arrêté. Et puis, c'est aussi que je n'ai pas trouvé la dynamique du jeu très convaincante en format jeu de société. Alors que l'atelier tel qu'il existe sur 2 mètres carrés de papier avec un animateur, celui-là, il marche vraiment bien.
Du coup, donc l'atelier La Fraise du Climat, comment ça se déroule? Quelles sont les différentes étapes qu'on va retrouver?
Alors, le principe du jeu, c'est qu'on va avoir des cartes qui sont ces éléments qui composent le changement climatique. Donc, on met les gens autour d'une table. On va avoir 5-6 personnes, 7 personnes qui sont autour d'une table et on leur donne les cartes, mais progressivement. On leur donne d'abord un petit lot de 7 cartes et ils doivent les placer dans l'ordre de cause à effet. Ensemble, ils vont lire les cartes. Chacun va lire une carte, par exemple. Ils vont décider ensemble de où est-ce qu'on la place sur la table. Quand ils ont aligné leurs 7 premières cartes, on va passer au lot suivant. Donc, il y a une dizaine de cartes qui arrivent, puis une dizaine, etc. Et à la fin, ils ont leurs 40 cartes dans les mains. Et ils les mettent comme ça partout sur la table. Le principe étant vraiment qu'ils vont décider ensemble où est-ce qu'on met chaque carte et lire, partager les infos qui sont au dos des cartes. Ensuite, il y a la phase créative qui consiste à dessiner et faire quelque chose de joli à partir de cette fresque. Et la troisième partie, c'est une partie de débrief où on va débattre des solutions. L'animateur va leur proposer de chacun énoncer quelque chose qui semble être une bonne idée pour lutter contre le changement climatique. Et puis, on va débattre. Il y en a qui ne seront pas d'accord. On va réfléchir à quelles sont les bonnes idées, les mauvaises idées, quelles sont les fausses bonnes idées. Et puis on va avoir un débat comme ça pendant une heure. Et le but de l'animateur, c'est surtout d'animer le débat, de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer. Bon, éventuellement, de temps en temps, l'animateur va aussi corriger des vraies idées reçues qui sont dommageables pour le débat. Donc, il va peut-être redonner quelques chiffres et recadrer le débat parce que sinon, on part dans des solutions qui sont un peu dans le subconscient collectif mais qui sont complètement à côté de la plaque. Mais en dehors de ces moments-là, l'animateur, il va surtout distribuer la parole et faire en sorte que ça soit fluide et que ça se passe bien. Voilà. Et ce débat, il doit durer à peu près 3 heures. L'ensemble le débat lui-même va durer à peu près 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Et l'ensemble du jeu dure 3 heures.
Et suite à l'atelier, est-ce que il y a par exemple une liste des solutions qui ont été proposées lors de la discussion, lors de la dernière phase, qui sont écrites et partagées, centralisées pour éventuellement que d'autres personnes puissent se joindre à des initiatives qui pourraient naître suite à ces ateliers?
Alors non, on n'a pas fait ça, mais on peut le faire. C'est-à-dire que l'animateur, il a une certaine latitude par la suite pour faire quelque chose avec ses participants. Il peut leur demander, par exemple, s'ils veulent, hein, en général on fait quelque chose de facultatif, on peut leur proposer de s'engager, de prendre un engagement pour le climat, de changer des habitudes, de s'engager à moins prendre l'avion, à manger moins de viande, par exemple. Et donc, ils vont l'écrire sur un post-it et on va le partager avec tout le monde de façon anonyme. Ça, certains animateurs font ça. On peut tout à fait imaginer, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de qui sont les gens autour de la table, dans quel contexte on a fait ça, est-ce que c'est une entreprise, une association, est-ce que c'est dans un cadre familial. Donc c'est vraiment à l'animateur d'imaginer ensuite les usages qu'on va faire de ce débat et de ce qui en ressort. Donc on peut tout à fait faire ça, ouais.
Alors tu as beaucoup parlé de l'animateur, qui a plein de rôles différents. Qui sont les animateurs qui animent les ateliers? Est-ce que ce sont des experts du climat ou pas forcément?
Alors pas forcément, justement c'est l'intérêt de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour l'animer. La formation à l'animation dure 3 heures. Donc le jeu dure 3 heures, la formation à l'animation dure 3 heures également, c'est-à-dire qu'après 3 heures, si vous le sentez, vous pouvez tout à fait organiser une session, animer une table, 2 tables ou plus. Et vous distribuez les cartes, et puis si vous n'êtes pas capable de répondre à toutes les questions, c'est pas grave. Si, à part que après avoir animé 5 fois, 10 fois la fresque, après avoir eu plusieurs fois des questions, et puis bah, du coup vous allez regarder dans les documents et dans le guide d'auto-formation qu'on a fourni, vous allez chercher les réponses. Au bout d'un moment, vous commencez quand même par bien maîtriser le sujet, en tout cas à être largement au-dessus de la moyenne des citoyens sur les questions de climat. Donc l'animateur, il n'a pas besoin d'être expert, il le devient assez vite à force d'animer. Et on est sur un outil qui est vraiment un dégrossissage, hein, ça s'adresse vraiment à monsieur tout le monde, un dégrossissage sur les questions de changement climatique. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être un expert du GIEC pour animer. Mais plus on maîtrise le sujet, et plus c'est intéressant pour les participants.
Oui. Alors, la fresque du climat a été déclinée en différentes versions. Il y a également d'autres sortes de fresques qui adoptent le même procédé, mais qui abordent d'autres sujets. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, alors il y a plein de déclinaisons. Il y a des déclinaisons dans plusieurs dimensions. Il y a la fresque a été déjà adaptée pour les enfants, donc c'est le même outil, le même principe, presque le même contenu, mais simplifié avec moins de cartes et des textes plus simples. Il y a également une version expert, mais qui est un outil un peu différent. La version expert est un outil pour les animateurs qui veulent de temps en temps se réunir et discuter entre eux et progresser, et échanger leurs connaissances sur le climat et progresser. Donc c'est un outil de perfectionnement pour les animateurs. Ça, il y a déjà trois déclinaisons, mais du même outil sur des formats différents. Il y a une déclinaison en termes de format qui est également un format avec une bâche verticale de 4 mètres carrés qu'on utilise dans les festivals. Donc on a la fresque déjà constituée qui est dessiné sur cette toile, et on a un masque, un cache devant chacune des cartes, et on va alpaguer 5 personnes qui passent pour leur demander 5 minutes de leur temps, et on dévoile une première carte. Alors, en général, on part de l'effet de serre, et on leur demande, à votre avis, qu'est-ce qui cause ce phénomène. Et au fur et à mesure que les gens devinent les choses, on dévoile les cartes qui correspondent à ce qu'ils ont deviné. Et ça leur permet d'apprendre, et puis de comprendre à la fin toute l'articulation qu'ils n'avaient pas forcément imaginée. Ils ont des bouts d'informations, mais ils n'avaient pas forcément l'articulation globale. Donc ça, tout ça, ça reste des déclinaisons de la fresque du climat. Et ensuite, l'outil, qui marche bien, a inspiré d'autres fresques. Alors il y a en cours de réalisation déjà bien abouti. On a aujourd'hui la fresque de la biodiversité, on a une fresque de l'océan, une fresque des déchets, qui ont toutes été inspirées par la fresque du climat et qui fonctionnent sur des principes très proches, avec des cartes, des liens de cause à effet reconstitués, un animateur, etc. Et puis il y a en projet plein d'autres cartes, hein, sur l'agriculture, la nourriture, sur l'effondrement, sur... Je pense que j'ai même pas tout en tête là, comme ça. Mais voilà, ça a inspiré d'autres auteurs. Il y a quelque chose qui s'appelle une fresque qui n'a pas été inspirée par la fresque du climat, parce que c'est né en même temps à peu près en même temps que ce que je développais au tout début. Donc, ça s'appelle la fresque de la renaissance écologique, qui a été créée par Julien Dossier et qui fonctionne pas du tout sur le même principe. C'est une vraie fresque pour le coup. C'est une fresque qui est imprimée sur 1 mètre sur 3 à peu près, qui représente la vie, qui représente des gens à la ville, à la campagne, On voit un mariage, on voit une école, on voit des commerçants, on voit des agriculteurs, de la production d'énergie. Et sur cette fresque, on arrive à identifier 24 chantiers de la transition énergétique, et on peut s'amuser à la décorer, s'exprimer dessus. Et c'est un outil complètement différent, qui est plus orienté sur qu'est-ce qu'on peut faire, en quoi consiste la transition énergétique, la transition écologique, et qu'est-ce qu'on peut faire, comment peut chacun y trouver sa place. Voilà, donc ça n'a pas été inspiré de la fresque du climat, parce que c'est né à peu près en même temps, il y a 4 ans et quelques, je pense. Mais c'est un autre outil qui s'appelle aussi une fresque.
D'accord, je ne connaissais pas. Tu as parlé qu'il y a de nouvelles fresques en cours de développement. J'ai constaté également pas mal de mouvements au niveau des recrutements au sein de l'association. Quels sont les futurs projets de l'association qui sont en cours, qui vont arriver ?
Alors, le grand projet de l'association, c'est de sensibiliser au changement climatique, hein, déjà. L'association, elle est là pour diffuser le jeu et pour former les animateurs. Ensuite, les animateurs, eux, ils utilisent le jeu dans le cadre qui les intéresse. Ça peut être dans un cadre bénévole, dans une école, dans une association. Ça peut être dans un cadre professionnel parce qu'ils vont aller dans une entreprise, facturer leurs prestations et faire, faire ensuite une facture. Et dans ces cas-là, ils doivent reverser 10% à l'association, parce que ça fait partie des sources de revenus pour l'association. Donc ça, c'est le but de l'asso, c'est ça, c'est d'accompagner ce mouvement, d'accompagner la montée en puissance des animateurs, leur nombre, et d'en former un maximum. Donc le but aujourd'hui, c'est de continuer. On est sur une courbe vraiment exponentielle. Il y a 2 ans, on y avait 1000 personnes à peu près qui avaient été formées. Aujourd'hui, on est à 25 000 et on vise 1 million de personnes et on l'atteindra dans 1 an et demi grand maximum. En fait, ça pourrait même aller beaucoup plus vite suivant les opportunités qu'on aura avec d'autres associations, avec l'enseignement supérieur ou l'éducation nationale. Les choses peuvent aller assez vite. Donc, dans les missions aujourd'hui de l'équipe, c'est de continuer de créer des partenariats avec des assos qui peuvent utiliser l'outil, c'est de former du monde, de développer le réseau, c'est-à-dire recruter des référents régionaux dans plein de régions de France, et puis de s'étendre à l'international avec des contacts locaux dans plein de pays qui vont, dans un certain cas, juste utiliser la fraise une fois de temps en temps, puis dans d'autres cas, être beaucoup plus acteurs, former eux-mêmes des animateurs et trouver des réseaux pour diffuser. Donc on est présent dans plusieurs pays aujourd'hui et le but est d'étendre notre présence pour que ça se diffuse partout dans le monde. Parce que, en fait, on est persuadé que les changements par rapport au climat ne se feront pas si les gens ne sont pas au courant. Donc la fraise, c'est un premier élément pour prendre conscience de l'urgence du changement climatique. Et donc on a très envie d'aller très vite, d'atteindre très vite énormément de monde pour que les gens prennent conscience qu'il y a un sujet et se mettent à s'investir dans la transition, donc à leur niveau, que ce soit en votant, en consommant différemment, en changeant de vie, en changeant de métier. Et voilà l'objectif. Donc on est une équipe qui est bien occupée, ouais.
Tu as dit 25 000 formés, c'est 25 000 personnes qui ont été sensibilisées par la fresque, c'est ça? C'est pas 25 000 animateurs?
Non, pas encore. Ça, ce sera là dans 2 ans. Pour l'instant, on a 1 millier d'animateurs à peu près.
Ok.
Un bon millier d'animateurs qui ont eux-mêmes touché de l'ordre de 25 000 personnes.
Donc oui, la fresque est soutenue par beaucoup d'animateurs et d'animatrices. Quels conseils peux-tu leur donner pour leurs prochaines animations?
Aux animateurs?
Aux animateurs, animatrices de la fresque.
Le conseil que je vais leur donner, c'est de prendre du plaisir à faire ce qu'ils font, parce qu'en général, c'est plutôt ça qui les motive. Et en fait, c'est aussi utiliser la fresque et animer des sessions, c'est aussi un moyen pour eux de progresser. En fait, on a deux publics en parallèle quand on utilise la fresque. Il y a le public des participants qui vont découvrir le sujet, pour certains, puis pour d'autres, ils ne vont pas le découvrir, mais ils vont progresser un peu dessus. Et les animateurs, eux-mêmes, quand ils animent, ils apprennent énormément de choses parce qu'on leur pose des nouvelles questions à chaque fois, ils se documentent, ils lisent, et eux aussi, ils progressent beaucoup. Donc, on a un outil qui sert deux fois.
Alors avant de terminer notre échange, y a-t-il un sujet que nous n'avons pas abordé et dont tu aimerais parler?
Oui, j'ai peut-être envie de revenir sur le pourquoi cet outil en fait. Notamment parce que j'ai compris récemment, quelque chose qui s'est passé dans ma tête quand je débutais moi-même sur le climat, c'est-à-dire que j'avais commencé à lire les rapports du GIEC. Donc c'était il y a à peu près 10 ans, je commençais à bien connaître le sujet, et puis un jour j'en discutais avec des amis et puis je leur raconte des choses sur le climat. Alors je sais pas, peut-être que je leur parlais je pense de la concentration en CO2 qui était à 400 ppm, et en disant ça je me disais, mais pourquoi je leur dis ça? 400 ppm, ils sont forcément au courant que la concentration en CO2 aujourd'hui c'est 400 ppm, parce que pour moi c'était devenu une évidence en fait. Et après, je me suis repris, je me suis dit, mais non, mais comment ils pourraient le savoir? Moi-même, il y a 2 mois, je ne le savais pas. Donc, en fait, on switch très vite de « je ne sais pas » à « ça devient une évidence pour moi » et je ne me préoccupe plus d'expliquer ça aux autres, parce que pour moi, c'est évident. Et on est nombreux, à mon avis, à faire ça, y compris dans le monde des gens qui sont impliqués sur les questions de changement climatique. Et donc, on a envie de passer à l'action, on a envie d'élaborer des plans sur la comète pour sauver la planète, on a envie d'élaborer des politiques publiques, plein de choses. Et on sous-estime le fait que, bah, en fait, on a laissé derrière nous 90% de la population qui n'est juste pas au courant du tout. Et tant qu'ils ne sont pas au courant, bah, ça ne servira à rien de proposer des mesures, des taxes carbone, de proposer des choses qui sont quand même souvent un petit peu des efforts à faire, ou en tout cas des changements d'habitude assez profonds. Et voilà j'ai repensé à cette anecdote récemment. Je me suis dit, bah oui, voilà ce qui m'est arrivé, moi, il y a 10 ans. J'ai switché très vite de ne pas savoir à savoir des choses et puis de considérer que c'est une évidence et ça devrait être une évidence pour tout le monde. Et ben, avec la fresque, on a une opportunité on a un outil puissant et qui marche vraiment bien. On a une opportunité pour déployer de façon massive quelque chose qui va amener de la connaissance pour le plus grand nombre. Et en fait, ça, c'est vraiment une condition préalable à ce qui se passe quoi que ce soit sur les questions de climat. Donc, on est parti sur cette mission-là. Il y a plein de choses à faire sur la transition. Chacun se concentre sur un domaine. Nous, on s'est mis sur ce créneau-là. On va le faire à fond et on espère que ça va déboucher sur plein de choses, plein de changements politiques, personnels et autres. Et voilà, ça c'est un préalable. Donc, voilà un peu le pourquoi du projet et pourquoi il grossit si vite, pourquoi il enthousiasme autant de monde qui a envie de le rejoindre. Et puis, j'espère que ça va continuer sur cette lancée.
J'espère aussi. merci beaucoup, Cédric, pour ton témoignage.
Merci à toi, merci Mathieu.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.